Nous allons ce soir essentiellement nous pencher donc sur deux derniers chapitres qui nous touchent aussi de très près. Le premier cadre très bien avec une soirée avant d'aller au dodo, c'est l'importance du repos. Alors on va s'y préparer de cette manière. L'importance du repos. La première remarque, c'est que nous travaillons dans le service de Dieu et par certains côtés aussi nos compagnes ont un peu le même type de problème parce qu'elles aussi, elles travaillent sans avoir une vie professionnelle. Nous avons un statut très particulier quand on réfléchit dans le service de Dieu. Ils nous épousent avec nous et ça pose quantité de problèmes. Nous travaillons, je dirais, en partie à contre-courant. C'est-à-dire, notamment les jours où beaucoup sont censés ne pas travailler, ou eux changer d'activité très différente de leur rythme de vie habituel. Nous vivons à contre-courant. Et c'est difficile de vivre à contre-courant quand on sait les problèmes que pose ce type de vie à l'infirmière qui travaille en service de nuit et qui dort le jour. On sait combien c'est perturbant pour beaucoup de personnes que de devoir vivre à contre-temps. Et il est évidemment bien plus difficile de se reposer lorsqu'autour de soi, les autres sont en plein labeur. Si on ajoute à ce fait que souvent, les jours où nos enfants sont les plus disponibles, quand c'est vrai, parce qu'hélas, maintenant, il semble que bientôt les mercredis soient plus chargés que les autres jours de la semaine, et ça pose un problème aux disciples de Christ, il faut savoir où sont nos priorités, même pour nos enfants. Mais toujours est-il que là où ils seraient les plus disponibles, c'est là aussi que nous avons des activités. Nous avons des clubs d'enfants, une quantité d'activités, nous n'avons pas toujours l'encadrement qui permette à d'autres personnes, moniteurs, monitrices, de faire ce travail, qui nous libérerait et qui nous permettrait de prendre aussi du temps avec nos enfants. Et c'est éminemment nécessaire, ce sera le sixième point, la vie de famille. Alors voilà une remarque importante qui peut aider déjà à comprendre le pourquoi d'un certain nombre de problèmes dans cette approche de la question du repos. Seconde remarque, nous avons peur, disons-le aussi, de pécher contre la consécration. Nous avons peur de pécher contre la disponibilité, contre l'amour. Nous avons peur des jugements de ceux qui nous verraient nous reposer. Nous avons peur d'être mal jugés par tel ou tel collègue, qui lui est un véritable bourreau de travail. Je crois qu'il y a beaucoup de complexes. Et des complexes qui souvent sont là, constamment refoulés dans le tréfonds de l'être, et qui de temps en temps ressortent dans certaines situations. Mes pauvres amis, j'ai écrit trop petit, j'espère vous aider, mais de toute façon, je reprends chaque titre qui est ici. Nous en sommes à travail à contre-courant, et scrupule et complexe pour le moment. Ce sera une leçon pour moi, j'écrirai plus grand la prochaine fois. En tout cas, beaucoup, beaucoup de complexes. Et puis, troisièmement, et là nous rejoignons tout ce que nous avons dit, notre manque de repos est souvent lié à nos lacunes dans l'organisation pratique du temps. C'est évident que nous ne sommes pas aidés pour nous reposer si nous n'avons pas une approche d'organisation de notre temps. Élaguer, etc., tout cela va bien sûr beaucoup nous aider à apprendre à nous reposer. C'est la Bruyère qui a dit que ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Et c'est vrai. Sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Et c'est vrai. Ceci dit, pour situer le problème spécifique dans la vie du serviteur, passons à un second point important, à savoir les dangers d'une fatigue excessive. J'étais hospitalisé donc deux fois entre janvier et mars 1970 à mon arrivée en Bretagne, sur un intervalle de quelques semaines, et entre les deux hospitalisations, la seconde débouchant sur une intervention chirurgicale, je suis allé me reposer dans une autre ville de Bretagne pour 3 semaines. Et là, à l'écart, curieusement, providentiellement, je ne me souviens plus très bien des circonstances, Dieu m'a interpellé sur le thème de la fatigue. Et je me suis mis, pendant ces 3 semaines, à étudier ce qui était dit dans la Bible sur la fatigue. Là où le terme fatigue, par exemple, était utilisé. J'avoue ne jamais avoir entendu d'études là-dessus. Alors c'est un thème passionnant, passionnant ne fût-ce que parce que nous sommes tous concernés. Nous dressons l'oreille quand il s'agit de questions de ce type. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de remarques solides dans les Écritures sur ce sujet. Tout d'abord, ce qui semble être une banalité, mais qui ne nous empêche pas pourtant de pécher dans ce domaine, c'est que l'accumulation de fatigue est dangereuse. Et les Écritures nous montrent à diverses reprises que cette accumulation de fatigue est un terrain plus favorable à l'ennemi. Ajoutons par souci d'équilibre qu'il est vrai qu'il y a des situations d'exception dans la volonté de Dieu, mais elles doivent le rester. Et le problème, c'est que nous faisons de situations qui devraient être exceptionnelles des situations qui deviennent tout à fait quotidiennes. C'est vrai qu'il y a des moments où nous pouvons être engagés dans un effort tout à fait particulier, où nous devons mobiliser toutes nos énergies, raccourcir nos nuits, mais nous sommes convaincus que nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu nous l'a demandé, nous sommes dans un moment d'offensive, un moment commando peut-être, et à ce moment-là, le Seigneur nous renouvelle vraiment dans sa grâce, et de manière souvent extraordinaire, et on le dit après, avec le recul, on dit, mais c'est extraordinaire parce que nous avons été portés par le Seigneur dans cette situation. Mais alors, l'exceptionnel ne doit pas devenir la règle, parce qu'à ce moment-là, la grâce n'est plus derrière. De la même manière, elle sera toujours là. Ça, c'est fantastique. Mais disons qu'on peut tomber de trop haut dans le filet de la grâce, et se faire quand même mal en tombant dedans. Mais ça, c'est toujours dommage. Et quelques exemples bibliques, je les cite, si vous voulez, pour que nous puissions essayer de terminer quand même dans les temps ce soir. Deutéronome 25, versets 17 à 19. Deutéronome 25, 17 à 19. Il s'agit de la sortie du peuple d'Israël hors d'Égypte et de la situation de lassitude, de grosse fatigue qui a favorisé une attaque de la part de ces ennemis irréductibles d'Israël, qu'étaient les Amalécites. Et le texte précise avec beaucoup de force ce lien entre l'épuisement, l'extrême lassitude du peuple et l'offensive qui se déchaîne contre ceux qui traînaient à l'arrière-garde dans leur fatigue. Deutéronome 25, versets 17 à 19. Second texte, plus long, mais intéressant lui aussi, vous le connaissez, c'est un épisode tragique qui révèle le cœur de Saül dans ses rapports avec son fils Jonathan. 1 Samuel 14, versets 24 à 33. Vous vous souvenez de cette attitude très personnelle, très égoïste, et qui émanait de son orgueil chez Saül, interdisant que l'armée d'Israël qui combat autour de lui se nourrisse, jusqu'à ce qu'il ait atteint ses ennemis et les ait écrasés jusqu'au dernier. Et on a toute la suite qui nous montre que le peuple était très fatigué, ceci nous est dit au verset 28, quelqu'un du peuple lui adressa la parole en ces mots, ton père avait prêté serment au peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était fatigué. Et Jonathan dit, mon père trouble le pays, voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas alors été plus grande? Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmas jusqu'à Ajalon, ça change tellement d'une version à l'autre, le peuple était très fatigué. Quelle est la conséquence? Et il se jeta sur le butin, et se suit une situation qui était en parfaite contradiction avec ce qui était enseigné dans la loi mosaïque au niveau de la nourriture et des sacrifices. il y a un lien entre une extrême fatigue et le péché qui s'ensuit. À nouveau, si nous allons dans 2 Samuel 17, versets 1 à 4, dans l'histoire de la fuite de David devant Absalom, il y a là ces divers conseils qui sont donnés à Absalom, et au chapitre 17, versets 1 à 4, Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même, j'arriverai sur lui pendant qu'il est fatigué. » Intéressant. « Et que ses mains sont affaiblies, et je mettrai le trouble chez lui, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira, etc. » Voyez ce lien à nouveau, situation de fatigue, due à une tension, etc., l'ennemi tombe dessus. Si on y ajoute 2 Samuel, chapitre 21, un peu plus loin à peine, dans les versets 15 et suivants, 21, 15 et 16, « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, ils combattirent les Philistins. David était épuisé et, dans le droit fil du texte, les géants, c'est toute cette engeance qui suivait Goliath, se lèvent pour menacer David qui n'était plus en état de résister. Et à ce moment-là, heureusement, il y a eu solidarité, mais on a dit à David, désormais, il est l'heure que tu te mettes de côté, ta place n'est plus sur le terrain de combat. Mais vous remarquez ces textes qui se suivent à très peu d'intervalles et qui tous font un lien entre un état de fatigue et l'attaque de la puissance ennemie. Et c'est vrai, la fatigue émousse notre vigilance, et plus important encore, ou allant tout à fait dans le même sens, la fatigue déforme notre vision des choses. Et nous en avons là aussi un exemple éloquent dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob au niveau de ce plat de lentilles et du droit d'aînesse. Parce que le texte insiste dans Genèse 25, versets 29 à 34, sur l'état de fatigue du profane, de cet homme qui vivait hors du sanctuaire, qui n'était pas préoccupé par les dimensions spirituelles, en tout cas à cette époque-là. Genèse 25, versets 29 à 34, un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là. « Car je suis fatigué. » Deuxième mention. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir. » Troisième mention de l'état d'extrême épuisement. Ceci, je le signale, en l'espace de 4 versets. Et le résultat, Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il prêta serment, vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain, du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bon, il y a un problème de fond, c'est évident, au fond du cœur de Saül, mais il est d'Ésaü, mais il est tout à fait évident que l'excès de fatigue chez Ésaü l'a conduit à sous-évaluer la bénédiction, le droit d'aînesse. Voyez, et l'ennemi en a profité. Et d'ailleurs, dans sa lucidité, ultérieurement, Ésaü l'a regretté. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait à ce moment-là une gaffe énorme dans sa vie. Mais la fatigue avait permis d'accentuer un penchant naturel de mentalité profane. Et il est vrai que la fatigue a cette tendance à accentuer chez nous les fragilités de notre personnalité, là où nous avons notre talon d'Achille, où nous sommes plus faibles et donc plus en danger. Difficulté aussi de concentration, de réflexion, de méditation. Or, quand on sait combien dans notre service pour Dieu, la réflexion, la méditation, la concentration sont choses nécessaires, primordiales, et il est grave de se placer de manière continuelle dans une situation où on est privé de ces dimensions essentiel. Il y a un exemple type que nous aurions pu creuser ensemble, mais que vous connaissez très bien, c'est le krach d'Élie, un roi 19, situation de découragement et de dépression, due de toute évidence à une situation de tension durant 3 années et demie tout à fait particulière, et de fatigue accumulée durant toute cette période, d'autant plus accumulée, d'autant plus aiguë qu'Élie aussi vivait avec une fausse conception au niveau de la solitude, ce qui accentue terriblement certains problèmes dans nos vies. Certes, l'ange que nous avons cité à plusieurs reprises a dit ceci, quand on n'a pas prévu le repos qu'on ne prend pas se prend. Il s'intercale subrepticement dans le travail sous forme de distraction, de somnolence et de nécessité auxquelles il faut pourvoir, n'y ayant point songé en son temps. Je crois que là encore, nous faisons de faux calculs quand nous refusons d'organiser notre temps de manière à nous reposer. Solution pratique maintenant. Eh bien, tout d'abord, nous l'avons dans l'histoire déjà lue ce matin de Moïse déléguant ses fonctions, ses tâches, les partageant en tout cas entre un certain nombre d'hommes discernés comme étant capables de les assumer. Savoir déléguer les tâches. C'est une excellente méthode pour apprendre à devenir formateur, pour apprendre à former des responsables. En effet, un des grands problèmes, c'est que il semble dans l'Église, je pense à la France pour le moment, que peu de serviteurs soient capables pratiquement de former des futurs responsables. C'est un des gros problèmes, et sans doute est-ce lié à nouveau à ce dont nous parlons tout au long de cette journée. Ce sont des cercles vicieux. Souvent, quand on n'a pas été formé comme il faut soi-même dans certains domaines pratiques, on a du mal à transmettre plus loin, parce que notre propre formation était floue. Alors, quelles sont nos objections? Nous en avons de multiples dans ce domaine de la délégation des tâches. Je le fais mieux et plus vite. J'en soulève quelques-unes. Ce n'est pas de tout repos, parce qu'il faut repasser derrière celui qui nous seconde, le stagiaire, pour vérifier et parfois pour refaire. Bon, nous avons eu, en l'espace de 9 ans, deux stagiaires ayant vraiment un statut de stagiaire et deux collaborateurs ayant un statut un peu différent, mais aussi en formation. Et c'est vrai que ce n'était pas de tout repos. Mais, encore une fois, c'est le temps qui montre la valeur. Et quand on a la satisfaction ultérieurement de voir quelqu'un fonctionner parce qu'il a été formé, on bénit le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu ait donné la patience à des hommes de nous former, qui y ont pris quelques cheveux blancs en plus. Et je crois que là encore, il faut apprendre à travailler à long terme, c'est-à-dire dans le service de Dieu, à ne pas travailler pour moi, mais travailler pour me multiplier, même si cette multiplication, en quelque sorte, certaine manière de ma personne prend un certain temps et fait que j'aurai à essuyer ici et là des pots cassés. Autre objection, je ne sais pas quoi déléguer. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ou bien je préfère qu'on me demande, je préfère qu'on se propose, n'est-ce pas? Et il faut dire quand même qu'il y a parfois, quand nous analysons notre propre cœur, peut-être des formes d'orgueil déguisé dans ce domaine. Ça vaut la peine de réfléchir devant le Seigneur quelles sont les raisons profondes, subtiles, de certaines de nos objections concernant la délégation des tâches. Je crois que nous n'avons pas toujours envie, dans certains domaines, de les partager. Quelles sont les réponses à ces objections? Je viens d'en donner une, formé, délégué et crucifiant au départ, mais tellement encourageant avec le temps. Nous aurions pu prendre l'histoire d'Élisée et Géasi et voir combien ça a été crucifiant pour Élisée, et combien il a dû même intervenir pour trancher dans certaines situations, pour faire intervenir une discipline divine, dans un certain cas de malhonnêteté, de vérification du travail de Géasi, dirions-nous, lorsqu'il est allé vers Naaman pour avoir ses vêtements de rechange, etc. Eh bien, Élisée l'a coincé, et en réalité, il lui a dit, ben, quel a été ton programme? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que nous dirions dans le langage d'aujourd'hui. Vous voyez, la vérification du programme d'un stagiaire. Et puis, quantité d'autres situations au chapitre 6, au chapitre 8, et comment finalement Dieu a utilisé Géasi plus tard. Il y a un texte très positif, je crois, dans le chapitre 8, où Dieu utilise Géasi de manière très favorable. Alors, quand on étudie tout cela dans le détail, on se rend compte que Élisée était un homme qui savait se faire assister et qui acceptait les pots cassés, mais ça a été à long terme, finalement une occasion de bénédiction. Comment faire pratiquement pour déléguer les tâches? Tout d'abord, ne pas assigner des corvées. C'est-à-dire ce que je ne veux pas faire. L'autre le sent, même s'il ne le dit pas. Ça sortira peut-être un jour et ça fera mal. Mais confier des activités aussi qui soient intéressantes, c'est important effectivement. Savoir qu'on fait des choses tout à fait banales et simples parce que ça maintient chacun dans l'humilité, mais donner en même temps des activités vraiment de responsables des choses qu'on aime et dont on sait qu'elles vont motiver celui qui s'engage à nos côtés pour nous seconder. Je crois que c'est très important, psychiquement, affectivement, pour la formation d'un stagiaire. Déléguer aussi ce que je connais très bien. Pourquoi ? Tout simplement pour être à même d'aider et de rectifier les erreurs beaucoup plus facilement. Surtout quand on démarre dans la délégation des tâches. Mieux vaut posséder son sujet pour mieux pouvoir contrôler et aider le stagiaire dans son travail. Bien sûr, on peut aussi déléguer simplement parce qu'on réalise très rapidement, comme Barnabas l'a fait avec l'apôtre Paul, que réellement l'autre a une étoffe qui est complémentaire et que dans ce domaine, on va pouvoir aider, donner des conseils, mais que c'est vraiment lui qui a la meilleure place. Et là, on se heurte parfois des domaines qui peuvent nous faire ressentir certains pincements, certaines frustrations. On peut très mal capter ce fait qu'on doit se mettre à l'arrière pour laisser quelqu'un d'autre prendre la place. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Nous avons des petits nœuds dans certaines situations à l'intérieur de nous-mêmes. Je crois que ça vaut la peine de se mettre devant Dieu et de se poser certaines questions. Ensuite, expliquer clairement la tâche que l'on confie, ce que l'on attend pour être bien interprété. Il y a beaucoup de problèmes dans la communication. Je pense à deux exemples très, très amusants dans ce domaine. Le premier, je viens de le lire dans la biographie d'un de mes auteurs de détente préférés, Roger Frison-Roche, qui vient donc d'écrire une magnifique autobiographie. Il a maintenant plus de 70 ans et derrière lui, moult expériences dans tant de domaines différents, que ce soit dans les montagnes, dans le Sahara, dans le Grand Nord, etc. C'est un magnifique écrivain et un homme remarquable. Et dans son dernier livre qui s'intitule Le versant du soleil, qui est très intéressant à lire, il raconte l'expérience de traversée du désert saharien en 1955 et comment, arrivé à Niamey, au terme d'une équipée de 5000 km, il est reçu avec ses équipiers chez le gouverneur à l'époque de la colonie. Et l'épaule du gouverneur avait fait préparer une tête de veau à la vinaigrette. Elle avait dit, vous savez, j'ai fait préparer pour vous une bonne tête de veau à la vinaigrette. Et elle fait sonner la petite clochette comme on faisait dans ces familles bien. Et arrive un serviteur, tout doux blanc vêtu, magnifique, au teint d'ébène. Et il y a des murmures. Des murmures d'appréciation, mais curieusement pas pour le plat, mais pour le serviteur qui arrivait. Tout simplement parce que son visage, curieusement, était orné de persil dans le nez et dans les oreilles. C'est genre de se retenir en voyant le visage de l'épouse du gouverneur changeant de couleur. Et ils font signe qu'ils apprécient, le serviteur sort. Et quand il est reparti, Madame Ramadier, elle s'apprête ainsi d'expliquer, je lui avais dit, tu présenteras la tête de veau à la française avec une touffe de persil dans les narines et autour des oreilles. Et il avait pris ça pour lui. Bon, ça nous détend, mais enfin c'est encore un problème de communication. Bon, vous dites c'est là-bas, hein. Mais nous avons des problèmes de communication plus près de nous. Je ne sais pas si nos amis de l'Institut des Verlets sont là, mais ça c'est quelque chose qui s'est passé à Verlets et qui m'a été longuement raconté, qui nous a fait rire follement par l'épouse de Brian Russell Jones du temps où il enseignait à l'Institut et où sa femme avait des responsabilités au niveau de l'Institut aussi. Oh, c'était très intéressant comme histoire. Tous les dimanches, les étudiants étaient chargés de préparer les repas et bien sûr, il arrivait toutes sortes de péripéties. Et voilà une de ces péripéties. Madame Jones, un jour de dire à un des étudiants, écoute, tu vas préparer un des œufs cuit à la coque. Alors voilà, je te mets ici un panier, là la grosse casserole pleine d'eau, et tu vas préparer les œufs pour la grande communauté hein, de l'Institut. Il y avait quelques bonnes dizaines d'œufs. Alors, les œufs étaient durs, même durs. Alors, Madame Jobs, de voir après les récriminations, le jeune lui dit, mais comment est-ce que tu as fait? Je t'avais pourtant expliqué. Alors, il a expliqué très longuement que... tout d'abord, comment est-ce qu'il avait fait? Ah oui, il avait mis les œufs dans la bassine d'eau, il avait fait chauffer l'eau, alors il les avait mis bien sûr l'un après l'autre, il avait fait chauffer l'eau, quand l'eau avait bouilli avec tous les œufs dedans, il avait mis sa minuterie, il avait bien regardé, c'est 3 minutes, et au bout de 3 minutes, il avait repris une cuillère, et soigneusement, il avait ressorti ces dizaines d'œufs, n'est-ce pas? Vous voyez, un problème classique de mauvaise interprétation. Il n'avait pas du tout compris le sens de ce panier à salade qui était là pour tremper une fois que l'eau était bouillante. Vous voyez. Et on peut avoir avec un stagiaire des problèmes de ce type. Je me rappelle, nous avons eu plusieurs équipes aussi d'instituts de Grande-Bretagne avec nous pour des efforts chaque année. Et on a eu de ces histoires un ami planeur comme... à qui j'avais dit un matin, tu sais, tu vas aller brûler ces vieux traités qui ne servent plus. Il y en avait des milliers qu'on ne pouvait plus utiliser pour toutes sortes de raisons. Et bon, les autres travaillaient de tout leur cœur, au plus, à mettre des tampons, etc. Ils fonçaient pour qu'on soit prêt pour l'après-midi. Et puis au bout de je ne sais pas combien de temps, je me dis, où est-ce qu'il est, notre ami? Et je vais le voir dehors, il était en train de brûler ses traités. Ah, après l'autre. Mais il en avait, vous savez, pour toute la durée de la semaine. Et puis comme il aimait lire, chaque fois qu'il y en avait un autre, il le lisait. On pourrait continuer ainsi toute la soirée. Et on apprend à travers de telles situations à faire attention dans la manière de communiquer. Il faut être très précis, il faut s'y reprendre à X fois, sinon on a des surprises de ce genre. Et c'est très amusant, mais ça peut être aussi très gênant. Ça signifie aussi, point E, confier sérieusement les responsabilités. Il faut déléguer l'autorité aussi. Il arrive parfois qu'on confie la responsabilité, mais on ne confie pas l'autorité qui va avec. Et l'autre le sent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'autre doit savoir exactement, s'il est stagiaire à nos côtés, jusqu'où il peut aller. Quelle est sa marge d'autorité pour prendre les décisions? Parce que sinon, il va être... très rapidement mis en contradiction avec nous, d'une part, perdre son autorité vis-à-vis de ceux auprès desquels il travaille. Alors il faut bien préciser jusqu'où il peut aller, pour qu'il puisse y aller alors vraiment franchement dans le travail. Et là souvent aussi, nous ne sommes peut-être pas toujours assez nets dans les dimensions de responsabilité et d'autorité que l'on confie. Il faut le faire savoir à son entourage. Il faut dire, écoutez, voilà, notre ami a telle responsabilité, il peut aller jusque-là, c'est sa fonction. Et il a pleine confiance pour ça, c'est d'ailleurs le point suivant, faire confiance tout en exerçant un contrôle discret. Et après les petites histoires qu'on a racontées, on comprend que le contrôle soit nécessaire. Parfois, ce qui est profondément douloureux pour un stagiaire, c'est de se sentir traqué. Avoir l'impression qu'on a toujours quelqu'un dans le dos, d'autant plus que un stagiaire ne travaille pas forcément au même rythme, avec les mêmes méthodes, mais peut parfaitement arriver tout aussi bien au même résultat, et pourquoi pas à un résultat meilleur par un autre chemin. Et nous pouvons avoir une espèce d'autoritarisme vis-à-vis du stagiaire qui veut le contrôler pour l'obliger à passer par le même chemin que nous. Et il faut là absolument que nous laissions une certaine marge d'initiative. Alors on peut discrètement contrôler pour voir si les initiatives vraiment sont valables ou si elles sont marquées de certains défauts clairs, fondamentaux, que l'on pourra ensuite ultérieurement expliquer au stagiaire. Point suivant. Ne pas avoir peur de demander l'aide autour de soi. Souvent dans l'Église, on a peur de demander pour être aidé. Je crois qu'il faut savoir demander l'aide, bien sûr, après avoir réfléchi et discerné les candidats pour nous aider. Il faut accepter de courir le risque de l'amour. C'est le rôle des anciens dans la communauté lorsqu'ils veulent lancer un nouveau. C'est difficile de lancer un nouveau. De ne pas lui confier trop de responsabilités qui lui vaudraient des chutes qui peuvent avoir des répercussions pour sa vie entière. Et on sait combien il y en a eu. Et en même temps, de ne pas être là constamment derrière ses basques à l'empêcher de s'épanouir et d'épanouir ses dons. Mais je bénis le Seigneur parce que je pense à plusieurs hommes de Dieu que Dieu a mis sur ma route durant un certain nombre d'années qui ont su courir le risque. Oh, ils ont souffert, les pauvres. Mais ils ont accepté de courir le risque de l'amour pour me lancer dans le ministère. Ça n'a pas été facile. Mais ça vaut le coup si on veut aussi pouvoir être déchargé et en même temps permettre à d'autres de se former. Et puis, nous l'avons déjà dit, avec un stagiaire, nécessité de faire un bilan horaire, voir avec lui les problèmes rencontrés, examiner les résultats, tirer les leçons, et ceci avec des rencontres régulières. Je crois qu'il faut rencontrer un stagiaire régulièrement chaque jour, passer un moment avec lui dans le partage. On n'aura pas forcément tous les jours grand chose à dire, mais il y a là un climat de communication, de transparence nécessaire et de vie de prière très importante. Voilà quelques remarques importantes pour les stagiaires qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà pu dire au niveau de la formation du stagiaire. Second point, grand 2, à l'intérieur du chapitre 5, le sommeil. Le sommeil. Vous vous rendez compte certainement avec moi que le monde moderne vit de plus en plus la nuit. Et il y a là un aspect inquiétant dans notre temps. Et, bon, c'est mon expérience personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas pour moi elle est valable parce que je me suis rendu compte que ça me jouait des tours terribles. C'est que de temps en temps, régulièrement, le Seigneur dit, Maurice, attention, tu te couches trop tard. Et bon, je fais marche arrière et je reviens à un coucher, sauf quand je fais des séries où on ne choisit pas son heure de coucher, mais quand je suis à la maison, bon, 10h30, j'essaye de me coucher à 10h30, il faut qu'entre 10h30 et 11h, plus de lumière, on se repose. Et puis, insidieusement, insensiblement, de jour en jour, il y a toujours un petit quelque chose pour retarder. Et deux semaines après, on n'est plus à 10h30, on est déjà à 11h30. Et bien sûr, il commence à y avoir des répercussions sur le lendemain matin, sur la vie de prière, sur le fondamental dans notre vie de disciple de Christ. Alors, tenons en compte, je pense à cette parole de George Muller. Mon expérience personnelle, disait-il, c'est que si je n'ai pas la quantité de sommeil qui m'est nécessaire, ma joie et ma force spirituelle sont fortement compromises. Ça fait du bien d'entendre des hommes de ce type-là montrer qu'ils avaient les pieds sur la terre dans ce domaine, comme dans quantité d'autres d'ailleurs. Sommeil, c'est ni trop, ni trop peu. On le sait. Trop de sommeil épuise, tout autant que trop peu. Il y a là aussi un équilibre à trouver. Le repos, troisièmement, c'est aussi un changement d'activité. Il faut savoir ce qu'on entend par repos. D'ailleurs, nous en avons un exemple dans les évangiles, Marc 6, 31. Lorsque les disciples rentrent de leur grande campagne d'évangélisation, ils se retrouvent aux côtés de Jésus, plein de choses à lui raconter. Il leur dit, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Et ce ne sera pas un repos dodo, ils vont faire un travail pratique, distribution des pains. Intéressant, changement d'activité. Et je crois que ce texte est parmi d'autres, un texte qui est là pour nous enseigner l'équilibre du repos, c'est-à-dire le changement complet de travail. Que ce soit le jardinage, que ce soit le sport, que ce soit la détente culturelle, la découverte de la nature, les sorties en famille, le bricolage, la musique, mais je crois absolument nécessaire pour chaque serviteur de Dieu d'avoir à côté de son ministère une dimension qui soit vraiment une dimension de détente et qu'il le fasse avec joie dans la plénitude de la paix. C'est un besoin, nous sommes des êtres humains, nous avons été créés avec un besoin d'équilibre dans un certain nombre de domaines. Et je crois que là, par fausse spiritualité, par complexe, nous avons peur et nous ne pouvons pas nous épanouir dans ce domaine. Il y a là plusieurs illustrations intéressantes. Selon la tradition, et je le précise, l'apôtre Jean, paraît-il, avait comme passe-temps d'élever des pigeons. A-t-on dit. C'est l'illustration qui m'intéresse. Un jour, à Éphèse, un ancien de l'église revient de la chasse, son arc à la main. Et il voit l'apôtre Jean qui joue avec ses pigeons et il lui dit « Comment peux-tu perdre ton temps à une occupation aussi futile ?» Et l'apôtre regarde l'arc de son visiteur et lui répond, semble-t-il, de la façon suivante « Pourquoi, mon cher frère, te promènes-tu avec un arc détendu ?»« Bien, je le détends toujours quand je ne m'en sers pas, car si je le gardais sous tension, il perdrait de son efficacité et me décevrait au moment crucial. » Alors Jean lui répond « Bien, je suis en train de détendre l'arc de mon esprit, afin que lorsque je lancerai les flèches des vérités divines, je sois d'autant plus efficace. » Alors, peu importe que l'histoire soit vraie ou fausse, ce qui est certain, c'est qu'il y a là une leçon à tirer pour notre vie personnelle. Savoir vraiment nous reposer, changer d'activité. J'ai lu là dans ce livre sur Mitterrand quelque chose de très intéressant. Comment ne pas perdre le sens de ce qui n'est pas relatif, un absolu peut-être, par rapport à ce qui n'est qu'anecdotique, conjoncturel, relatif. C'était la question qui lui était posée. Comment avoir un juste regard sur les événements? Alors, Mitterrand a répondu ceci. Sauf depuis quelques années où j'ai beaucoup de travail, j'ai toujours gardé du temps. Je ne me suis jamais laissé engluer. Pendant la campagne présidentielle de 1965, par exemple, j'habitais encore rue Guynemer, on sait où c'est maintenant, je passais au moins une heure de promenade par jour, soit au Jardin des Plantes, soit à celui du Luxembourg. En 1974, je n'ai pas pu, parce que j'avais en même temps la charge du parti. Ce qui était une erreur. Il faut garder cette distance, l'esprit est plus fort, l'impact est plus grand. Et là encore, c'est une chose que l'on remarque dans la vie de tous les hommes qui ont marqué leur époque. Ils avaient nettement, à côté de leurs activités principales, des domaines vraiment où ils pouvaient complètement se donner dans une toute autre direction pour garder du recul sur l'événement et sur leur travail. Qu'est-ce que ça signifie pratiquement? Ça signifie bloquer des jours de repos sur l'agenda à l'avance. À l'avance. J'ai là mon agenda, ce n'est pas un modèle, c'est mon expérience à nouveau. Mon agenda jusqu'à la fin de l'année, voyez, comporte déjà des jours de repos chaque mois. Excuse-moi mon frère, tu me l'as dit tout à l'heure. Voilà, mais tu ne vois pas grand-chose. Mais il y a tout un système de couleurs, mais pour chaque mois, il y a des indications famille, des journées déjà bloquées. Vous savez, si vous ne les bloquez pas à l'avance, dites-moi, tout ce que vous voulez, vous ne les prendrez pas. Vous ne les prendrez pas. Et il faudra que ce soit quelqu'un d'autre qui le mette sur votre programme. Il y a bien des épouses qui sont obligées de le faire pour leur mari. Vous voyez? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous serez obligé pour les prendre de les noter à l'avance. Et bien sûr, n'oubliez pas de consulter l'agenda. Je le dis, savez-vous pourquoi? Parce qu'après un séminaire de ce type, dans la région centre, avec la pastorale du centre, un serviteur du centre m'a raconté qu'ils avaient décidé, après ce séminaire, et à partir de ce séminaire, de bloquer régulièrement dans leur agenda des journées comme ça, chaque mois, pour leur repos. Et ils l'ont fait très scrupuleusement, soigneusement, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et puis, un certain jour, ils travaillent comme des fous, en se disant tout au long de la journée, vraiment, il faut qu'on prenne un jour de repos. Et puis, le soir, ils terminent, mais complètement éreintés. Et je riais en les entendant raconter ça, parce que le bouquet, c'était que, finalement, le frère consulte son agenda pour simplement aller voir tout à fait autre chose pour la suite de la semaine, et il s'aperçoit à sa grande stupeur qu'il était marqué jour de repos le jour où il avait travaillé. Il n'avait pas regardé l'agenda, voyez. Mais c'est tout simple. Ça semble si tomber sous le sens. Et pourtant, une fois de plus, c'est souvent là que nous avons quantité de problèmes. Notez, bloquez absolument à l'avance les jours de repos sur l'agenda. Quatrièmement, la question des vacances. Pourquoi les vacances? Parce que le repos doit être aussi un changement de cadre. Et c'est vrai qu'on se fait du bien quand on fait une petite sortie, et, ou même qu'on bricole, mais nous avons besoin, surtout avec les pressions actuelles du ministère, de changement de cadre, de changement absolument complet, parce que nous sommes de plus en plus confrontés avec des problèmes profonds, avec des tensions. Bon, il est vrai que certaines personnes éprouvent moins le besoin que d'autres, mais on n'est pas seul. Et je crois que parfois, c'est toute la famille qui souffre parce que le serviteur, papa, ne prend pas de vacances. Alors les autres hein, sont liées là au papa et au serviteur qui est à la maison. Je crois qu'il faut penser là aussi à la vie de famille, on va y revenir dans un moment. C'est important pour pouvoir se retrouver avec les enfants à fond. C'est-à-dire que depuis 10 ans maintenant, depuis le début de notre ministère, chaque année, sans en manquer une, nous avons pris en été 3 bonnes semaines, en tout cas, sans compter une semaine à un autre moment de l'année, de vacances, mais complètes, où nous partons sans laisser d'adresse, sauf à une personne qui est dans le secret, au cas où il y a vraiment un grave problème de décès dans la famille, ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? Mais une personne, c'est le lieu où nous allons, nous partons dans la nature, souvent en montagne, tout à fait à l'écart, et nous ne voulons pas voir un seul chrétien, ça peut choquer, mais nous allons jusque-là. Nous n'allons pas, je sais que ça peut choquer, mais nous n'allons même pas à l'église du coin. Mais tout ça, nous faisons notre culte en famille, entre nous. Mais nous ne voulons pas, dans notre type de ministère, rencontrer l'église. Pourquoi? Parce que quand on va dans l'église, « Oh, monsieur, est-ce que vous ne voulez pas donner le message ?» Ou bien après, à la sortie, c'est 10 personnes qui vous demandent de parler de l'église, de parler de tel problème, qui veulent vous rencontrer le lendemain, le surlendemain, ceci encore. Je connais plusieurs itinérants. J'en connais un, notamment, qui m'a dit des dizaines de fois, « Je suis toujours crevé. » Il m'a dit ça comme ça. Et je lui ai dit un jour, « Tu sais, frère, moi qui démarre dans le ministère d'itinérant, tu ne m'encourages pas. » Parce qu'avoir toujours en face de soi le portrait d'un itinérant crevé, c'est vraiment pas encourageant pour la suite du ministère. Il faut savoir se mettre à l'écart et parfois complètement s'isoler et changer à 100% d'activité. Alors ce que nous faisons, nous, je vous parle d'horaire, mais quand nous sommes en vacances, ne me parlez pas d'horaire. Je ne sais pas quelle est l'heure du lever, je ne sais pas forcément quelle est l'heure du coucher, je ne sais pas quelles sont les heures de repas, et nous vivons tous comme ça. On se détend, on ne regarde plus sa montre, on cuisine à la camping, on se détend à fond, n'est-ce pas? Mais alors on rentre avec une vie de famille, unie, les enfants sont emballés parce qu'on a vécu à leur côté, c'est fantastique. Et c'est un renouvellement pour la suite de l'année. Et quand on rentre, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus du tout les problèmes sous le même aspect. Au départ, ils étaient comme ça, au retour on se dit quand même, qu'est-ce que mon regard sur les problèmes de ma vie d'église était déjà complètement déformé. Tout reprend d'autres proportions. Vous me direz, mais oui, mais ça pose des problèmes financiers, prendre des vacances. Mes amis, c'est pas vrai. Je ne le crois pas. Moi, je crois que Dieu est un père. Et que c'est un père qui sait donner à ses enfants ce dont ils ont besoin. Mais, bien sûr, il faut s'y prendre à l'avance pour préparer des vacances. On ne se prend pas au mois de juin pour préparer des vacances de juillet ou d'août. Nous commençons en ce moment. Nous avons même commencé déjà depuis janvier à préparer nos vacances d'été. Ça signifie que nous prions déjà pour le lieu de nos vacances, pour que le Seigneur mette sur notre chemin ceux qu'il a choisis pour nous permettre d'avoir des vacances qui soient possibles en fonction de notre bourse. Et pendant 10 ans, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre, qui de manière régulière a répondu à sa manière à lui, à notre prière, nous donnant régulièrement des vacances à la portée de notre bourse. Et nous avons vu comment Dieu a mis les personnes qui nous ont rencontrés pour permettre nos vacances. Dieu est un père. Quand on voit les jours de fête dans l'Ancienne Alliance, c'est fantastique. C'est René Page qui comptait qu'en plus des 69 jours de vacances dans les années normales, un homme de 50 ans aurait pu passer 8 ans de sa vie à jouir simplement des bienfaits de Dieu. Il a fait le calcul. Et je crois que là, j'ai un père. Et que mon Dieu sait vraiment de quoi j'ai besoin. Alors chaque année, cette année, tout notre mois de juillet est déjà bloqué complètement. Il n'y a rien, ça ne bougera pas. Et c'est un mois où vraiment nous voulons vivre notre vie de vacances. Pour nous ressourcer, pour nous renouveler, et pour pouvoir repartir dans le ministère vraiment à fond, frais, et avec des enfants qui soient heureux de leur vie de famille. C'est d'une importance capitale parce que cela aura aussi des répercussions plus tard, dans leur vie personnelle de disciples de Christ. Dieu peut nous priver de vacances une année, ça c'est son affaire. À nouveau, souvenez-vous des nuances du début. Mais, je ne crois pas que ce soit la norme. Quand un serviteur de Dieu n'a pas pris des vacances comme 10 ans, parfois plus, comme on en voit souvent, même encore à l'heure actuelle, je me pose quand même des questions. Je me pose quand même des questions. C'est une nécessité pour notre équilibre les uns et les autres. Et peut-être ne voyons-nous pas toujours les gaffes que nous faisons à cause de notre manque de vacances et de coupures complètes, Et nous avons besoin d'apprendre ces choses. Alors ceci dit, qu'il y ait des moments où Dieu veuille nous couper, mais alors il nous donne la paix à ce sujet, et à ce moment-là, il nous donne sa grâce pour vivre ce temps où nous sommes privés de vacances. Mais j'y vais sans complexe. Oui. Ah, il est évident que si nous quittons, bon maintenant ce n'est plus mon problème, mais pendant 10 ans, nous avons bien sûr toujours veillé à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour remplir notre fonction. Ça, et qui en même temps pouvait prendre une partie de ses vacances, parce que ça lui convenait à lui. Moi je n'aime pas, j'ai toujours refusé d'aller faire ce qu'on appelle les suffragances, des remplacements et tout ça. Si j'y suis toute l'année, je ne veux pas connaître ça en été. Bon, certains aiment. Alors on leur offre toute l'infrastructure, logement gratuit, tout ce qu'on veut, ils assurent le minimum, et puis ils vivent comme ils l'entendent. Mais ils sont là, dans la vie de l'Église, ils le savent, c'est prévu, il y a un contrat au départ. Et pendant 10 ans, nous avons eu comme ça des familles qui se sont succédées. Et je dois dire que là aussi, pendant 10 ans, nous avons trouvé nos remplaçants régulièrement, soit par voie de nos circulaires, soit dans la prière que le Seigneur donne. Il sait aussi que nous avons besoin. Et je dois dire que maintenant, ce que nous faisons, c'est que, bon, nous ne sommes plus dans un logement de fonction d'église, nous avons notre propre logement, mais nous mettons aussi notre logement à disposition en été quand nous partons pour une famille qui veut prendre ses vacances. Et je crois que ça, c'est une chose à développer dans les vies d'église. Bon, il faut mettre certaines choses au point au départ pour ne pas trouver 3 logements en miettes au lieu d'un. Quand on était dedans, on peut avoir des surprises. Mais ceci dit, je crois que ça serait bien, sur le plan des frais, de davantage cultiver l'échange de logements. Ça se fait trop peu. Alors nous bénéficions de cet avantage depuis 10 ans. Souvent, nous avons pu aller en vacances, encore l'été dernier, et d'autres sont venus pendant ce temps, pas forcément les mêmes, mais finalement, ce sont quand même les vases communicants. Un autre profite de notre logement pendant que nous profitons du logement d'un troisième. Voyez ? Après tout, notre maison ne nous appartient pas. Si elle est au Seigneur, ben, mettons-la vraiment à sa disposition en disant, écoute Seigneur, je voudrais bien que ce qui est l'instrument de ton travail reste quand même en bon état quand je rentrerai. Simplement. Oui.
Peut-être qu'il faut ajouter quand même que le Mistral s'ouvre toujours dans la même direction.
C'est-à-dire.
Il y a moins de personnes qui montent en vacances dans le nord de la France.
Ah, ça c'est le problème du nord peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas, n'est-ce pas, qu'il y a dans d'autres régions des possibilités. Et des gens qui sont prêts à le faire. Si nous sommes ouverts. Vraiment. Voilà. Moi j'ai une proposition. On me demande actuellement. Dans les Landes, en plein cœur des Landes, dans une région que nous avons visitée l'an dernier, on nous demande des personnes de confiance qui acceptent de venir prendre leurs vacances gratuitement dans une maison, soit en juillet, soit en août. Bon, et je suis en pleine recherche sur ce plan-là. Vous voyez ? Pardon ?
C'est difficile. Pour retrouver les gens pour ça
Je crois que plus nous sommes ouverts à ce genre de situation, plus nous y sommes sensibilisés. Donc nous voyons les choses. Dans quantité de domaines, c'est comme ça. C'est quand on commence à avoir mal dans le dos qu'on commence à entendre les gens parler du mal au dos. Tant qu'on n'a pas le problème, on est sourd à tout ce que les gens disent. Et une fois qu'on est sensibilisé à la question des vacances, on commence à entendre un tas de choses auxquelles on ne faisait pas attention auparavant. C'est surtout ça. Bien sûr qu'il faut que ça se cultive et que ça se développe aussi. Mais il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir même le choix entre 2 ou 3 possibilités pour nos vacances d'été. Vous voyez ? Et c'est, je crois que dans la prière, le Seigneur a une solution. 5e point pour avancer encore. Savoir dire non et ne pas trop charger nos programmes. Vous savez, Clémenceau a dit que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Savoir dire non, ça veut dire aussi savoir dire oui dans certaines situations. Toujours l'équilibre, mais je crois qu'il faut que nous acceptions nos limitations comme nos possibilités. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités, la même rapidité dans le travail, les mêmes santé. Je suis arrivé en Bretagne, j'étais malade. Je me suis retrouvé dans mon stage à côté d'une femme de Dieu, remarquable certes, qui dormait 5 heures par nuit, qui a bâti du travail dans sa journée, mais malgré une grande famille. Ouh, c'était dur! Et pour moi, qui était en plus malade, diminué dans certains domaines, c'était pas facile d'être à côté d'une personne de ce calibre-là. Et parfois, c'est dur dans l'œuvre de Dieu quand on travaille dans l'entourage de personnes qui donnent. On a tendance à se complexer, à se poser beaucoup de questions, et puis on a tendance à ne pas toujours être compris par ceux qui ont toutes les facilités, toute l'énergie, et qui pourraient penser que on flémarde. Alors, je crois que là, il est important de réaliser que nous ne travaillons pas en compétition avec d'autres, mais nous travaillons en présence de Dieu qui nous connaît. Et j'ai eu du mal moi-même, personnellement, à accepter de plus en plus mes propres limitations. Il faut que nous en arrivions là, on sera toujours très heureux. J'ai été très frappé récemment, c'est une découverte toute récente, dans la parabole des talents de Matthieu 25, de réaliser la valeur d'un talent. Combien de fois on lit cette parabole? Mais quand on sait qu'un talent représente 6000 deniers, et que 6000 deniers, c'est donc 6000 jours de travail pour un ouvrier, soit plus de 16 ans de travail. C'était celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'il vous plaît. Et ça, ça m'a illuminé. Je me suis dit, ben, cet homme-là, il n'avait pas du tout de quoi être frustré ou jaloux de ses copains. Parce que quand même, c'était déjà pour lui quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous voyez, le problème n'était pas au niveau de la quantité. Et c'est ce que dira dans la conclusion le maître, bon et fidèle serviteur. Hein? Chacun, même celui qui a reçu peu, a reçu en réalité beaucoup. Et je crois que c'est un des enseignements de cette histoire, de cette parabole. Dieu nous a donné à tous beaucoup. Et celui qui a reçu le moins dans le service de Dieu a déjà reçu au moins cette valeur-là, c'est-à-dire une valeur absolument extraordinaire. Donc, n'ayons pas d'esprit de comparaison, sentons-nous bien à l'aise dans notre peau, à notre mesure, comme le dit la lettre aux Romains. Je pense à Wesley, qui, à 78 ans, disait « Continuer à couvrir environ 6000 km en 12 mois », les comparaisons sont intéressantes sur ce plan. Et on calcule qu'il parcourait en 6 ans une distance équivalente à la circonférence du globe. Mais il disait ceci « Je n'entreprends jamais plus d'ouvrage que je n'en puis faire en conservant tout mon calme intérieur. Je n'ai pas le temps d'être pressé. » C'était Wesley. Or, on a calculé qu'il avait prononcé ou écrit 40 000 sermons et qu'il avait prêché 50 000 fois. Mais lui aussi avait ce sens de l'équilibre. Il avait un cap dans sa vie, et c'est d'une importance capitale. Et c'est important quand nous voyons ces chiffres, parce que regardez les distances que nous faisons maintenant. À l'époque, on voyageait, comme nous le disions au sujet de Jésus, on prenait le temps de voyager. Pendant qu'on voyageait, on se reposait, on se ressourçait, on faisait un tas de choses. À l'heure actuelle, avec la rapidité du temps par les moyens de locomotion, les activités s'accumulent les unes sur les autres, très proches les unes sur les des autres, sans que nous ayons ce temps de ressourcement, de réflexion, d'arrêt nécessaire. Alors nous avons tendance à, et là, ça ne pas suffisamment réfléchir à ces différences entre le passé et aujourd'hui. Bien sûr que dans le passé, on ne prenait pas de la même manière les vacances, etc., etc. Mais il y a une accélération du temps qui est extrêmement importante dans notre vie d'aujourd'hui. Et quand on voit à l'heure actuelle un itinérant faire facilement 40, 50 000 km dans un an, c'est pas grand-chose finalement pour bon nombre d'itinérants aujourd'hui. On passe d'un coin à l'autre avec une rapidité incroyable, avec toutes les fatigues que cela comporte. D'où là aussi la nécessité de savoir dire non et de ne pas surcharger nos programmes. C'est Lyoté qui a dit « Si nous sommes pressés, allons doucement. Si nous sommes pressés, allons doucement. » Là aussi, deux, trois aspects pratiques. À nouveau, nous nous répétons, important de noter son programme pour discerner quand dire non. En général, quand on accumule, c'est que l'on n'a pas noté. Parce que quand on note, on voit sous les yeux, on se rend compte, hein, de la liste. Et souvent on dit oui, 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 mais on n'a aucun point de repère pour savoir jusqu'à quel point on s'est déjà réellement chargé. Savoir aussi discerner, ce n'est pas toujours facile, les suceurs de temps. Ceux qui monopolisent sans scrupule et sans vrai besoin. Et dans la vie de l'Église, il faut avoir ce discernement. Vous savez combien on peut être parfois monopolisé par une personne alors que réellement on en est arrivé à un stade où elle a tout entre les mains et où il faut au contraire absolument qu'elle prenne son envol en dehors de nous. Et nous n'avons pas toujours là, c'est vrai, reconnaissons-le, et puis il faut le demander à Dieu. On apprend ensemble, ça fait toujours mal, un pincement au cœur, il faut savoir à un moment donné dire, eh bien écoute, l'heure est venue, maintenant il faut que tu prennes ton envol aussi. Et c'est difficile, c'est vrai, nous le reconnaissons, moi j'ai eu toujours beaucoup de peine aussi, difficile de dire à quelqu'un, écoute, il y en a d'autres aussi. Il y a 10 personnes qui frappent à la porte, qui ont des besoins légitimes, extrêmement urgents, et il faut aussi se donner à ces personnes-là. Et je trouve que l'ennemi a le coup. L'ennemi a le coup pour placer ces personnes, à certains moments donnés, qui vont nous accaparer, nous monopoliser. Il choisit bien ces moments quand on examine nos vies d'église avec du recul. Et cela signifie qu'il faut nous poser la question. Alors je dirais, avant d'arriver à ce point-là, qu'il faut savoir par contre donner tout le temps là où il y a des besoins légitimes. Là, bien sûr, c'est absolument nécessaire, toujours cette recherche d'équilibre. Mais enfin, se poser la question, pourquoi ne sais-je pas dire non? Pourquoi est-ce que je ne sais pas dire non dans ma vie? Est-ce que c'est l'orgueil du programme chargé? On peut avoir cet orgueil-là. Ah, ça fait bien. Un agenda bien chargé. Oui, on a nos petits problèmes là au fond de notre cœur. Est-ce qu'on a la peur de déplaire? Est-ce que le travail serait une fuite dans notre ministère ou un refuge devant les problèmes? Ça arrive, hein? Ça peut être une fuite, puisqu'on y vient, devant les responsabilités familiales du serviteur de Dieu. C'est vrai que c'est plus facile d'aller parler à l'extérieur pour fuir certaines situations chez soi, pour ne pas aborder de face certains problèmes. Je crois qu'il faut, devant Dieu, simplement, honnêtement, nous poser des questions. Est-ce que ma course au travail, mon refus de dire non, n'est pas, parfois, une forme de fuite face à certaines situations que j'ai de la peine à accepter? Ça arrive dans le ministère, ça nous arrive peut-être à chacun un moment ou à l'autre d'être tenté de trouver cette porte de sortie pour éviter certains problèmes, notamment, et nous arrivons donc à la dernière feuille, à savoir le temps pour la famille. Le temps pour la famille. Le temps pour la famille. Ce chapitre est donc abordé en fin d'étude du séminaire, parce qu'il a été préparé par les chapitres précédents. Beaucoup de choses que nous avons dit des chapitres précédents étaient une bonne préparation à ce que nous allons voir maintenant. Faisons tout d'abord des constatations dans un premier temps, actuellement, pour dire que Satan s'acharne à essayer de plus en plus de discréditer nos ministères en touchant à la cellule familiale du serviteur. Jamais il n'y a certainement eu autant de casses dans les couples de serviteurs de Dieu, dans les vies familiales que maintenant. Et ça doit nous interpeller. Je ne compte pas le nombre, notamment d'épouses, qui ont explosé, même parfois, quand j'étais là, que nous parlions avec eux, en famille, de cette question de l'organisation du temps, qui ont lâché le bouchon et qui ont dit tout ce qu'elles avaient dans leur cœur sur ce plan-là. Et puis, bien sûr, la révolte des enfants aussi. Et je crois là que nous devons nous humilier et nous le faisons ensemble, nous, hommes, serviteurs masculins, parce que nous sommes souvent très égoïstes. Et nous sommes beaucoup trop centrés sur nous-mêmes et sur notre ministère. Notre famille est trop rarement associée à notre ministère dans les nouvelles que nous donnons. Et c'est dommage. Je crois qu'il n'y a pas assez de conception pour ceux qui reçoivent notre communication d'un ministère de dimension familiale. Je suis désolé. Le ministère n'est pas uniquement le ministère du serviteur de Dieu, c'est une famille. Et nous ne devons pas la dissocier comme nous le faisons, parce que ça va poser d'énormes problèmes, notamment dans le ministère itinérant. On connaît bien l'homme, on connaît Alain Choiffier, on en connaît d'autres, et la femme. Combien prie pour elle? Combien s'intéresse à elle? Combien lui envoie un message d'encouragement? C'est pas facile pour l'épouse. Et est-ce que nous le faisons dans... Est-ce que les gens qui nous connaissent de loin dans notre ministère connaissent notre épouse? Il y a là vraiment des questions à se poser. Je pense aux veuves. Vous savez le drame des veuves, de serviteurs de Dieu. Tant que leur mari était en vie... Ah, elles étaient intégrées à tout ce monde qui tournait autour du serviteur. Le serviteur meurt, la femme veuve se retrouve toute seule. Toute seule. Elle n'existe plus. Il y a encore un tout petit cercle d'amis, très intime, très proche, mais tellement petit par rapport à à ce monde fraternel dans lequel elle gravitait auparavant grâce à son mari. Et ça fait mal. Et il y a des femmes de Dieu qui le disent, des veuves qui ont su le dire, qui ont su le partager à l'occasion de conventions, tout ce qu'elles avaient ressenti au moment où le mari était décédé. Quelle souffrance! Quand du jour au lendemain, on n'existe plus, comme chez les hindous, on brûle la veuve. Mais on la brûle à notre manière, parfois, dans notre ministère. Et je crois qu'il faut absolument, dans nos circulaires, comme dans nos voyages, rendre sensibles ceux qui nous entourent au fait que nous avons une épouse et que nous avons des enfants. Et qu'ils sont engagés à nos côtés, qu'ils vivent nos combats. Fréquemment, quand je suis en déplacement à la maison, c'est le combat en même temps que moi. La semaine dernière, j'avais une série à la Bonne Nouvelle de Strasbourg. Pendant plusieurs jours, je téléphone à ma femme en lui disant, tu sais, le démarrage a été tellement dur, j'ai eu un combat pendant toute la journée, et je bénis le Seigneur maintenant, le plus gros est passé, mais quel combat! Elle me dit, mais tu sais, moi j'ai vécu aussi un combat très dur de mon côté. Nous avions vécu le combat sans le savoir l'un avec l'autre, et c'est si fréquent. Vous allez rencontrer quelqu'un pour régler des problèmes d'occultisme, et à la maison, ça barde. Combien de fois dans notre ministère en Bretagne, nous l'avons vu? Au point que nous nous sommes entourés ensuite et nous avions été mal éduqués sur le plan spirituel. Nous avons beaucoup souffert dans notre vie de famille. Et alors nous sommes entourés de précautions ensuite. De manière à ce que vraiment notre vie de famille soit protégée lorsque nous avions un ministère dans le domaine de l'occultisme, par exemple. C'est vraiment un ministère familial, le ministère d'un serviteur de Dieu. Les autres sont dans le coup, les autres en caisse. Et il y a bien des frustrations et des sentiments qui sont gardés là-dedans par les femmes des serviteurs de Dieu jusqu'à ce qu'un jour ça craque et qu'elles tombent en dépression. Nous ne réalisons pas assez ce que signifie être épouse et enfant de serviteur. Surtout parce que l'épouse vit constamment au niveau des contingences les plus matérielles qui soient. C'est l'épouse qui voit l'augmentation des prix dans les magasins. C'est l'épouse qui voit le salaire, etc. Toutes ces choses. Et ça joue. Il y a la relation avec les enfants, il y a les répercussions sur les enfants, etc. Tout ça, elle le vit beaucoup plus intensément. Elle vit, elle, le foyer, ce que nous vivons, nous, intensément, dans le domaine de la cure d'âme, de notre relation de crise avec les membres de l'Église. Elle le vit dans le tous les jours, au niveau des choses les plus quotidiennes. Est-ce que nous nous en rendons vraiment compte? Et je pense que, parfois, nous avons une certaine incrédulité devant les remarques de nos compagnes, qui ne nous semblent pas toujours assez spirituelles, alors qu'en réalité, elles sont simplement constamment au contact de ces choses quotidiennes auxquelles il faut penser en ayant les pieds sur la terre, même quand on a le cœur dans le ciel. Je crois que là, nous devrions vraiment nous humilier sur ce plan-là. Nous ne considérons pas assez que notre vie de famille est le premier lieu d'un témoignage vécu à la gloire de Dieu. Ça passe avant l'Église. Ça passe avant l'Église. Lisez le profil de l'ancien et la place qu'occupe le foyer dans le profil de l'ancien. Et si la famille est, comme quelqu'un l'a dit, la succursale de l'église locale, si elle va avoir des répercussions sur la marge de l'église locale, combien il nous faut y penser, nous qui sommes dans le ministère? Je dirais qu'il est facile de briller au dehors et d'être médiocre au dedans. Facile. Facile. Vous avez peut-être lu certainement l'excellent livre « Comment t'aimer » de Trobisch. Et dans ce livre, dans les pages 71 à 74, il y a un passage très intéressant concernant la visite de Walter Trobisch chez un couple de serviteurs dans l'église desquels il tenait une réunion. Il s'agit de pasteur Daniel et de sa femme Esther. Et de cette femme qui pratiquement éclate en sanglots et qui révèle le problème conjugal du couple de serviteurs qui était constamment dérangé, il ne prenait plus ses repas avec sa femme, etc. Et je vois un extrait là, de cette femme qui dit à Walter Strobisch, mais j'aime beaucoup Daniel, mon mari, mais il n'a aucun sens de l'organisation. Cela ne me fait rien d'avoir beaucoup de travail, mais je voudrais prévoir mon emploi du temps, avoir une vie organisée. Lui, il ne prévoit jamais rien. Il agit sous la pression des circonstances. Certainement, c'est un excellent pasteur, mais j'ai peur qu'on abuse de lui. Et tout un entretien suit, mais qui est d'une actualité bouleversante. Et Trobisch, qui va prendre la situation en main, avec beaucoup de délicatesse, mais qui va aller pour parler aux gens qui sucent le mari, donc Daniel, en leur disant, écoutez, si vous voulez, laissez-le aller maintenant prendre son repas. Enfin, il leur explique la situation, et ils ont tout un entretien très intéressant, et il termine en racontant l'histoire d'un gardien de phare. Voici cette histoire telle qu'il la raconte. Ce phare guidait les bateaux qui devaient franchir une passe dangereuse. Jour et nuit, il fallait entretenir la lampe à pétrole. Près de là, il y avait un village, et très souvent, les villageois venaient demander aux gardiens de leur donner un tout petit peu de pétrole pour leur lampe. Il était trop bon pour refuser. Et peu à peu, il épuisa la provision de pétrole. Un jour, le phare s'éteignit et un navire se brisa sur les écueils. La bonté d'âme du gardien avait causé la mort de nombreux marins. Et Trobisch, simplement, de dire, eh bien, le phare, c'est vous. C'est votre témoignage familial. Et vous pouvez apparemment avoir cette bonté d'âme qui consiste à donner un petit peu de votre foyer comme ça, partout. Jusqu'au jour où le phare de votre vie familiale s'éteint, insensiblement d'ailleurs. Et ensuite, c'est l'échec. Et vous savez comment c'est dans l'Église. Ce sont ceux-là même qui critiquent éventuellement notre non-disponibilité qui sont les premiers à nous accuser quand notre vie de famille craque. Souvenons-nous-en. Comme quoi, mieux vaut sur ce plan-là aussi vraiment prendre un certain nombre de précautions. Je vous propose un certain nombre de suggestions en point B, en soulignant ceci, que plus le ministère est public, plus il faut préserver la vie familiale avec vigilance. Notamment si vous êtes dans un logement de fonction. Nous étions dans un logement de fonction qui était contigu, associé à un temple, et ça n'a pas été facile. Parce que dans un logement de fonction, ça peut signifier du 24 heures sur 24 par moment. Parce qu'on est là, on est sur place. Alors les gens viennent à tout moment, et on a tendance à confondre le lieu de réunion publique et le lieu privé. Et nous avons dû, croyez-nous, faire une certaine police, parce que nous retrouvions au début de notre ministère, de par certaines habitudes, des gens qui étaient dans nos chambres, comme ça. Hein, on ne leur avait pas demandé de monter. Et ça n'a pas été facile de dire, écoutez, nous avons quand même un lieu privé, qui est une nécessité. Nous voulons avoir un foyer ouvert, mais l'hospitalité doit se faire aussi avec équilibre. Et la famille a besoin aussi, notamment les enfants, pour la sécurité, pour le bien de l'épouse aussi, de savoir qu'elle a son lieu à elle. Nous avons besoin d'un lieu. Tournier l'a dit, et c'est une vérité. L'homme est son lieu. Nous en avons besoin tout au long de notre vie. Et je crois qu'une hyper-spiritualité nous fait passer à côté d'une réalité nécessaire. Ça signifie donc une hospitalité mesurée, la nécessité de fermer le restaurant de temps en temps. Et dans notre vie familiale, régulièrement, il nous arrive de dire, bon, maintenant on ferme le restaurant. Et nous ne voulons avoir personne pendant un certain temps, nous voulons être entre nous. Parce qu'il faut qu'il y ait du dialogue avec les enfants. Or, le dialogue a lieu où ? C'est souvent à table qu'on peut partager quantité de choses qui n'ont rien à voir avec les problèmes, d'ailleurs. Mais il y a là une intimité qui se crée entre enfants et parents, souvent autour de la table, et qui est d'une importance capitale. Préserver les heures des repas autant que possible. Vous savez très bien comment c'est. Certains, bon nombre de coups de téléphone inutiles et de visites banales interviennent juste au moment des repas. Et vous avez même des personnes qui ont le coup pour venir systématiquement au moment où vous vous mettez à table. Je me souviens de ces situations. Et je crois que là, nous devons aussi à un moment donné savoir dire, quand nous ne sommes pas en face de situation d'urgence, qu'il y a un temps pour tout. Alors nous avons fait ainsi, nous l'avons là annoncé à l'église. Nous avons dit par exemple à notre vie d'église, écoutez, le lundi, c'est un jour où nous nous arrêtons. Si vous êtes vraiment dans une situation d'urgence, venez frapper. Si nous sommes là, nous vous accueillerons. En général, nous partions. Pourquoi ? Parce que déjà sur le parc à auto, le matin, au moment où nous entrions dans la voiture, il y avait quelqu'un qui se pointait. Et parfois, ma femme et les enfants attendaient dans la voiture pendant que j'avais un entretien. Et rentraient finalement à la maison. Alors nous essayions de fuir par le fait que nous étions dans ce logement de fonction parce que nous en avions besoin. Voyez ? Et il faut le dire à l'église. Il y a des moments où nous avons besoin d'être entre nous dans une vie de famille et en dehors des situations d'urgence, eh bien, réserver votre venue au mardi, votre entretien au mardi, si c'est le lundi qui est pour un certain temps jour d'arrêt. Et je crois que l'église, quand on le lui explique, quand elle quand on communique suffisamment avec elle, c'est toujours la même chose. Il y a souvent un problème de communication banale, de choses du terre à terre, pour aider l'Église à comprendre. Ce sont nos peurs d'expliquer qui souvent posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Ne pas trop multiplier les réunions au programme. Je pense à ces tristes dimanches pour certains enfants de nos églises, qui disent plus tard, le jour que nous aimions le moins de la semaine, c'était le dimanche. Et leur maman les accompagne en sourdine. Parce que c'est la maman qui a un enfant à droite, un enfant à gauche, un autre encore qu'elle surveille de loin, et qui ne profite même pas du tout. Parce qu'elle est prise, souvent, par le souci de garder sa progéniture au calme, etc. Pensons à ces choses. Quand nous sommes arrivés, l'habitude anglo-saxonne d'avoir une rencontre de l'après-midi était là, bien incrustée dans la vie d'église, en réalité rencontre à laquelle viennent ceux qui sont les plus fidèles, les plus engagés, rencontre, paraît-il, destinée à l'évangélisation, mais où on évangélise les déjà convertis à Jésus-Christ, etc., etc. Bon, eh bien, au bout de 2 ans, quand nous étions bien acceptés dans l'église, on dit, bon, maintenant, on supprime la réunion du dimanche après-midi. Nous avions des familles avec 7 gosses. Dans la semaine, c'est le self-service parce que papa rentre à telle heure, maman est là à telle heure, tel enfant au lycée mange à la cantine, etc. On ne se voit pas. C'est le drame de notre temps. Et dans nos familles, quand est-ce qu'on se voit alors? Si le dimanche, c'est à nouveau la valse des réunions, il y a là un problème. Et finalement, nous avons remplacé cette rencontre du dimanche après-midi par de temps en temps une rencontre spéciale, de caractère spécial, qui motivait parce que peu de sucreries vaut mieux que beaucoup. On ne s'y habitue pas et au moins on mange avec beaucoup d'appétit. Et puis, ça a permis à l'Église de vivre davantage l'hospitalité, c'est-à-dire d'accueillir chez elle un ami, quelqu'un de passage, autour de la table, de sortir l'après-midi, et l'enfant accepte beaucoup mieux toutes les dimensions spirituelles. Et il vit une plénitude de dimanche. Je crois que c'est simple, mais c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense pour l'équilibre familial et l'équilibre de l'Église. Ne pas faire de la maison une salle des pas perdus. Nous l'avons dit d'ailleurs tout à l'heure, avoir un sens du privé, à refuser une certaine promiscuité. Je crois là aussi que ça a beaucoup d'importance, surtout à l'heure actuelle où le sens communautaire très étroit est de plus en plus développé, où il y a souvent des manques de courtoisie dans les relations. On a besoin de cultiver des relations de courtoisie. C'est très important dans la vie chrétienne. C'est fou l'huile que ça met dans les rouages de la vie familiale, de se dire merci, d'être courtois l'un à l'égard de l'autre. Et souvent, ce sont des choses qui se perdent actuellement. Je crois qu'il faut faire attention. Vraiment avoir une maison qui soit celle de Dieu, une maison d'accueil, mais en même temps, trouver ce joint. Nous sommes quand même dans notre lieu, ce lieu dont nous avons besoin. Ça signifie aussi ne pas perdre le contact avec les siens. Participer en tant que serviteur activement à la vie de famille, que ce soit au niveau de la vaisselle, des jeux, des devoirs, des sorties. Je crois qu'il est important que nous vivions pleinement la vie de famille avec les nôtres et que nous sachions nous asseoir dans la cuisine au milieu de nos gosses, éplucher avec eux, essuyer la vaisselle avec eux, et le vivre vraiment au milieu d'eux. C'est du christianisme en action. Ils attendent une prédication de la part de leur père, qui est d'abord cette dimension-là. Disons-le, là aussi, avec force. Nous faisons à la maison, quand j'y suis, régulièrement, la vaisselle en famille, avec les enfants, papa plonge, les enfants sont autour, et c'est une occasion de bavarder, etc. On fait ça ensemble, c'est la vie de famille. Et je crois que le message de l'Évangile passe aussi de cette manière. Réserver des journées famille dès le début de l'année dans notre agenda. Vraiment, des journées famille, anniversaire par exemple, maintenant je réserve la fête des mères pour notre vie familiale. Parce que je me suis rendu compte qu'on m'invitait dans les églises pour la période fête des mères. Et on tenait. Ah ben, elle est à l'avance dans les agendas. Hein. Elle est à l'avance, largement à l'avance dans l'agenda. Je peux vous donner celle de cette année parce qu'elle est réservée famille 1er et 2 mai. Voyez, samedi 1er... Ah non, pardon. Non, excusez-moi. Ça, c'est le 1er mai. C'est aussi famille. C'est le 6 mai, France, fête des mères. 6 juin. 6 juin, voilà. 6 juin. Alors, on invite le prédicateur, mais l'Église, elle vit la fête des mères. Et vous avez très peu de monde occupé. Vous avez fait parfois 700 km Pour vivre avec l'Église, vous avez même éventuellement dit auparavant, vous ne pensez pas qu'avec la fête des mères, il vaudrait mieux. Oh non, tiens, ce que vous veniez. Si vous arrivez, toute l'Église fête la fête des mères. Et vous, votre femme est à 700 km de là. Après tout, si c'est pour ça, mieux vaut vivre la fête des mères chez soi. Vous voyez ? Et je crois que là, il y a des fêtes, des événements qui rapprochent. Il y a un excellent livre, dans un excellent article, chapitre dans le livre 40 pas. Vous connaissez ce livre ? Comment s'appelle l'auteur ? Il en a écrit trois. Pardon ? Non, il écrit quand souffle un second souffle. Mais c'est ça, Keith Miller. Il y a un excellent chapitre sur ce thème. Et comment cet homme qui était itinérant et qui voyageait constamment pour des conférences en est venu dans sa vie à réserver ses temps et à dire au téléphone à ceux qui l'invitaient, vous savez, vous pouvez trouver 10 orateurs. Eux, ils n'ont qu'un père, mes enfants. Vous voyez ? Et combien ça a épanoui cet homme dans son ministère et dans sa vie de famille en même temps. Alors là encore, cela peut nous aider à réfléchir. Doser autant que possible, si nous sommes loin, nos absences loin du foyer. Alors, nous, pour le ministère itinérant, nous avons carrément fait un contrat conjugal, ma compagne et moi, avant d'entrer dans ce ministère, pour la durée des absences, le nombre d'absences dans le mois, nous avons tout un contrat ensemble, de manière à éviter de créer certaines angoisses chez l'épouse, quand elle sait, de manière très habituelle, que son mari, elle ne le reverra plus avant. Des semaines et des semaines. Alors, les seules exceptions que nous faisons, c'est quand je fais un voyage très loin à l'étranger où ça pose toutes sortes de questions financières, etc. Mais sinon, en Europe francophone, je ne fais jamais plus de déplacements, par exemple, de 5 à 6 jours, grand maximum. Les 90% de mes déplacements sont de 2 ou 3 jours. Je rentre à la maison. Les problèmes ne peuvent pas s'accumuler. Il y a une détente dans l'esprit de l'épouse. Puis je repars. Vous voyez ? Mais je suis toujours là, par relais, dans la maison, plus un week-end par mois où je suis totalement à la maison à tout coup. Et ça permet à l'épouse de respirer, de savoir que son mari est là, à ses côtés, même s'il est absent de manière assez régulière. Je pense à une histoire qu'on m'a racontée d'un évangéliste suisse qui partait pour de longues périodes. Il avait une grande famille, il avait 8 enfants, et son épouse, tante Blanche, l'attendait toujours avec beaucoup d'impatience. Et il avait une barbe noire. Et puis un jour, on sonne à la porte, et la porte s'ouvre, un homme à barbe noire est là, et elle lui saute dans les bras. Oh chérie ! Et elle regarde, ce n'est pas son mari. Importance du partage. Importance du partage avec l'épouse. De l'écoute réciproque. Du temps pris ensemble. Du petit cadeau, du restaurant, de la sortie en tête-à-tête, du voyage de 3 jours anniversaire avec elle, etc. C'est important, ça, dans la vie. Extrêmement important. Ça permet vraiment d'éviter une quantité d'accumulation de petits problèmes que l'épouse garde là-dedans, puis qui, un jour, risque d'exploser et de faire tellement mal. Alors, là aussi, il faut, surtout pour les itinérants, nous devons faire très attention quand vous rentrez de voyage. Moi, quand je rentre de voyage, je suis saturé. Et je n'ai pas du tout envie de faire un rapport à ma compagne. Alors, elle le sait. Alors, quand je rentre, elle ne me pose pas de questions sur mon travail. On discute de toute autre chose. Le lendemain, alors on s'installe et on raconte ce qu'on a vécu. Alors, ce sont des petits trucs. Mais parfois, il y a tant d'incompréhension dans un couple, simplement parce qu'on n'a pas mis certaines choses au point au départ. Et toutes ces questions de communication entre époux. Et là, on vient de me raconter une histoire passionnante d'un couple qui... manger de la crème anglaise tous les dimanches depuis 20 ans. C'était l'habitude. Et madame servait la peau, vous savez, le dessus, il y a en général une belle couche au-dessus, à monsieur, avec beaucoup de générosité, parce qu'elle croyait que monsieur aimait la peau. Et quand monsieur servait, il se servait héroïquement, alors qu'il n'aimait pas du tout, et que sa femme en raffolait. Et au bout de 20 ans, ils ont communiqué dans ce domaine. Et ils se sont rendus compte de l'histoire. C'est une histoire vraie, hein? Oh, non! De crème anglaise! Enfin, ça nous fait du bien. Mais c'est vrai que nous avons un tas de problèmes dans ce domaine, parce que nous ne communiquons pas, parce que nous ne partageons pas. Voyez. C'est Keith Miller qui dit dans son bouquin « Le trait commun qui semble se dégager chez les pères et les maris conscients de leurs devoirs, c'est cet art de savoir reconnaître l'importance de chacun des membres de la famille et de leur prouver que leur mari et leur père connaissent leurs aspirations et leurs réalisations. Le message que j'essaie de transmettre à ma famille est celui-ci, bien que je sois très occupé et qu'à l'avenir je dois probablement quitter souvent la maison, chacun de vous a une très grande importance pour moi. Parmi tous les êtres auxquels j'ai affaire, c'est vous qui comptez d'abord dans ma vie. » Et il explique, comme c'est la qualité de ses livres, c'est qu'il explique ce qu'il a vécu et comment il a évolué. Voyez. Et là, c'est vraiment une des expériences qu'il a faites petit à petit. Je recevais une lettre en 1980, nous arrivons à notre conclusion, d'un couple en Suisse, très engagé dans l'œuvre de Dieu, qui à l'époque avait aussi un métier, maintenant je crois qu'ils sont dans une autre situation, et qui m'écrivait ceci. Nous étions engagés à 100% dans le travail auprès des jeunes de 1971 à 1975. Ils avaient quatre garçons. Ils ont quatre garçons. Un jour, à la suite d'un petit conflit avec notre aîné, celui-ci s'est jeté sur son lit en sanglotant et en disant « Vous vous occupez des autres et pas de moi. » Ces quelques mots nous avaient bouleversés et Dieu s'en était servi pour nous obliger à revoir nos priorités. Depuis lors, nous n'avons pas cessé d'être attentifs en priorité à l'équilibre familial. Combien souvent ai-je entendu des jeunes déclarer qu'ils ne voyaient jamais leur père trop occupé, entre guillemets, au service du Seigneur. Et je crois qu'il y a là vraiment un défi. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée et qui m'a profondément touché et fait réfléchir. Dans mon ministère, un jour, une épouse du serviteur de Dieu m'appelle et me dit « Est-ce que vous voulez bien faire le déplacement pour venir à l'hôpital ?» Notre fils vient de tenter de se suicider par le feu. Il avait d'ailleurs déjà plusieurs reprises tenté de se suicider. Un fils de serviteur de Dieu. Ça peut arriver. Mais alors, j'ai posé la question, mais écoutez, où est son papa? Le père serviteur de Dieu avait donc laissé son fils vivre sa tentative de suicide, liée à cette situation familiale, en désharmonie, et c'était un serviteur de l'extérieur qui essayait de régler le problème. C'est dramatique, une situation de ce type. De ne pas se déplacer quand un des siens est dans une situation de ce genre. Je pense à ce que ce jeune, s'il s'équilibre un jour, va penser en regardant son passé et ce moment-là dans sa vie. Ou, si ça se trouve, et moi je le pense, sa tentative de suicide était un appel à la présence du Père. Il voulait avoir son père. Et ça se comprenait, ça se voyait. Et en réalité, même là, dans cette situation ultime, le père n'est pas. Enfin, le dernier point, et nous arrivons à notre conclusion, rendons service aux serviteurs déjà chargés ou surchargés et qui a des problèmes de ce type. C'est-à-dire qu'il faut savoir ne pas insister trop lorsqu'on invite des serviteurs. Et ça, je le dis en tant qu'itinérant, chacun pense à son intérêt. Et celui qui invite pense à l'intérêt de son église locale. Et il est vrai que parfois on peut couler le ministère d'un serviteur itinérant si on ne tient pas compte de ses tensions familiales. On peut parfois tellement insister auprès de lui jusqu'à ce qu'il cède et qu'il vienne. Et on ne se rend pas toujours compte qu'on devient responsable à ce moment-là aussi de la dégradation de sa situation familiale. Et il est des serviteurs qu'on n'a pas du tout aidés dans le passé, qui ont vraiment coulé dans leur vie familiale, mais on continue à les inviter. Vous voyez, de tous côtés, même quand on savait parfois que leur vie familiale était vraiment en danger. Et là, c'est aussi la vigilance entre membres du corps de Christ. Nous devons veiller les uns sur les autres dans notre service, n'est-ce pas? Donc veiller sur le ministère de l'itinérant quand nous réalisons que des bruits commencent à courir et que sa situation devient une situation dangereuse. Nous avons un devoir vis-à-vis de lui et de ne pas penser uniquement à notre vie d'église. Conclusion, où elle est toute courte. Notre devoir est de tout faire pour bien organiser notre temps. Être des bons gérants de ce cadeau de Dieu. Nous l'avons dit, avec équilibre, sans rigidité. Et c'est cela même qui nous donnera de mieux pouvoir accepter les contretemps avec sa grâce. Je crois que c'est précisément quand on commence à marcher dans la ligne de l'organisation du temps qu'on peut gérer les contretemps. Beaucoup mieux que quand on n'est pas organisé du tout. C'est François Coillard qui disait une chose bien certaine, c'est que tous nos contretemps, quels qu'ils soient, nous rapprochent de Dieu, nous font sentir notre dépendance de lui, notre profonde faiblesse, et nous enseignent à prier. J'ai pris avec moi un petit livre que j'aime beaucoup, qui n'est plus publié actuellement, qui m'a été offert par un serviteur en Bretagne, de Lucie Grasmuck, Dans le secret, et dans lequel il y a toute une série de méditations très pratiques, et notamment toute une longue méditation emploi du temps. Et je vous livre simplement, dans la conclusion, certaines pensées de cette femme de Dieu qui dit dans ce livre: il nous faut apprendre auprès de notre maître l'art de dominer l'imprévu, de supporter sans que notre paix intérieure en soit troublée, d'être interrompu, de changer nos projets. Rien de tout cela n'a été épargné à Jésus. Les foules l'attendaient là où il comptait se reposer avec ses disciples. Mais il ne fut pas pris au dépourvu. Il les enseigna, les guérit, les rassasia. Le grand secret, c'est de confier l'imprévu à la prière. Lorsque l'afflux des besognes pressantes, indispensables, semble se précipiter comme un torrent dans notre journée, que nous nous sentons momentanément débordés, dépassés, il n'y a qu'un moyen d'y voir clair, c'est de prier. Chaque occupation semble alors se ranger d'elle-même à sa vraie place. On distingue avec une précision apaisante le travail à faire et celui qu'il faut ajourner. Et pour celui-là, ne nous épuisons pas en excuses, en regrets, en gémissements inutiles. Ne nous répétons pas « j'aurais dû faire cela ». Si nous n'avons pas pu, en travaillant avec conscience, diligence et prière, remplir telle tâche qui semblait se présenter, c'est qu'en réalité Dieu ne nous le demandait pas. Ce qu'il nous demande, c'est de fournir notre maximum avec sérénité et de répéter au sujet de notre travail même la suprême requête de notre Sauveur, ta volonté et non la mienne. À observer une telle discipline, on éprouve un allègement, un sentiment de délivrance incomparable. Nous devons tout faire pour éviter le type du serviteur de Dieu haletant, affairé, débordé. Ce n'est pas la forme de service que Dieu réclame de nous. Un chrétien citait ce mot: la volonté de Dieu n'est pas que les jours aient plus de 24 heures. À nous d'apprendre tout simplement à les faire valoir. Et cette pensée était la suite de toutes sortes de petits conseils sur l'organisation pratique du temps. Voyez. Alors je souhaite simplement que tout ce que nous avons partagé, qui était très concentré et dans une même journée, nous aide maintenant les uns et les autres dans notre vie personnelle et familiale, conjugale, au service de notre Dieu.